Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous proposons une redécouverte, celle de notre corps, avec comme fil conducteur le temps, les heures et ces séquences qui ponctuent notre journée pour comprendre comment les différentes parties de notre organisme s'activent, interagissent, se réveillent, sont en perpétuel mouvement ou font une pause. Une mécanique souvent bien huilée, mais aussi une mécanique fragile et complexe qui agit, qui travaille pour nous sans que nous en ayons vraiment conscience. Alors, arrêtons-nous pour nous demander comment nos organes se coordonnent-ils? Comment nos muscles et articulations sont mis à contribution lorsque l'on court, lorsque l'on monte un escalier, lorsque l'on défriche un terrain? Comment notre déjeuner arrive-t-il dans notre estomac? Pourquoi rester assis devant son bureau? Eh bien, ça peut provoquer un mal de dos ou les jambes lourdes, ou encore, d'où vient la fatigue? Pourquoi ronfle-t-on? Et oui, des questions simples auxquelles il n'est pas toujours évident d'apporter une réponse. Arrêtons-nous pendant les 50 prochaines minutes pour comprendre ce qui se passe pendant 24 heures dans la vie du corps humain, connaître les ressorts et rouages de cet extraordinaire ensemble, un corps qui s'entretient, qui se respecte, qui se ménage, puisque c'est sur lui que repose notre bien-être et notre santé physique et mentale. 24 heures dans la vie du corps humain, c'est le titre du livre que vous avez signé aux éditions du Rocher. Docteur Antoine Piau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gériatre au CHU de Toulouse, un ouvrage que nous allons parcourir avec vous au cours de cette émission et à la page 197 de votre lit. Oui, je l'ai lu jusqu'au bout. 23 heures au lit. On donnera aussi la parole dans Priorité Santé aujourd'hui à une spécialiste du sommeil, docteur Sylvie Royan-Parola, psychiatre, présidente du réseau Morphée. On parlera avec elle notamment de la chronobiologie, l'étude des rythmes biologiques dans l'organisme. Et en fin d'émission, coup de projecteur sur une maladie virale émergente, la fièvre de la vallée du Rift, présente en Afrique, dans l'océan Indien notamment. Elle a été classée maladie prioritaire émergente en 2015 par l'OMS. Des chercheurs travaillent sur la transmission du bétail à l'humain. Le moustique, encore lui, apparaît comme un vecteur déterminant. Travaux conduits par le docteur Raphaël Métras, chercheur à l'INSERM au sein de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Alors, de la tête aux pieds, du lever au coucher, docteur Antoine Piau, votre livre, c'est plus qu'un livre de vulgarisation sur le corps, sur l'anatomie humaine. On parle en fait des temps de la journée, du comportement, de prévention, d'alimentation, tout ce qui fait cette journée. Pourquoi cette approche? Pourquoi justement cette chronologie d'une journée dans la vie d'un être humain?
Alors, c'est vrai, donc c'est un voyage, on va dire, dans les 24 heures du fonctionnement du corps humain. Donc, dit comme ça, c'est un peu plat, ça peut paraître un peu nul, mais en fait, l'idée, c'était d'avoir un esprit un peu critique et un point de vue différent de ce qu'on entend toute la journée et toutes les semaines. Il y a un gros mouvement de fond qui est en route en ce moment. Avant, le médecin, c'était un demi-dieu. C'était le dieu du village, le dieu du canton.
Celui qui sait tout.
Et il vous assénait la connaissance et vous n'aviez qu'à l'appliquer. D'ailleurs, on parlait d'observance. As-tu bien observé ce qu'a dit ton médecin? Voilà, c'était de l'ordre divin quasiment. Et depuis quelques décennies, ça fait 20 ans environ, on se rend compte que ça fonctionne pas, ça. Autrement dit, il faut que le patient, il comprenne ce qui se passe, qu'il ait une forme de concentration avec son médecin, qui se mettent d'accord sur une stratégie appliquée. Et d'ailleurs, on ne parle plus d'observance, donc on n'observe plus un ordre divin, mais d'adhérence. C'est-à-dire, j'adhère à ce que me propose mon médecin. Et finalement, ce qu'il faudrait, c'est un peu plus de culture générale. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout un chacun comprenne un peu mieux comment le corps humain fonctionne, et ça lui permettrait peut-être de moins subir ce qu'on lui raconte, parce qu'on entend un paquet de conneries quand même au fil d'une journée sur la santé, ça lui permettrait de moins subir le marketing santé, le marketing bien-être, qui est parfois relayé par les professionnels de santé, d'ailleurs ça c'est un peu dérangeant.
Et par les médias aussi.
Et par les médias à fond. Et donc d'être un peu plus, de reprendre un peu le pouvoir, entre guillemets. Bon, c'est un peu excessif comme formule, mais c'est quasiment ça, quoi.
Esprit critique avec aussi de l'humour. humour, science humour, ça fait bon ménage.
Ouais, science et humour, ça fait. Alors le livre, il faisait 400 pages au début.
Oui.
Et l'éditeur, il m'a dit, bah, une fois qu'on a enlevé les blagues trop lourdes, les 15e d'oreille, ça fait plus que 250 pages.
Il en reste quelques-unes, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, quand on entend les questions, là, on parle de la crise sanitaire actuelle,
oui,
et un petit peu quand même des fois des journalistes, je ne sais pas si ce sont des spécialistes de la santé ou des spécialistes plutôt de la question, qui posent des questions qui sont tellement vastes, qui sont tellement importantes et de porter, on va dire, de la connaissance universelle, ils attendent encore quand même des médecins une connaissance universelle.
Oui, alors déjà, on attend de nous... Alors, c'est de notre faute. Hein. C'est-à-dire, à force de se poser en demi-dieu, les gens attendent de nous des miracles.
Et puis, certains ne disent pas « je ne sais pas », ils répondent à côté.
Exactement. Mm. Et pourtant, pour trois quarts des questions qu'on nous pose, ou deux tiers, on devrait avoir l'honnêteté de dire « je ne sais pas », mais voilà ce que je sais, et voilà en quoi ça peut potentiellement aider. Mais ça, c'est vraiment clairement un changement culturel à faire dans les professions de la santé, à être un peu plus humble et à reconnaître que vraisemblablement la médecine a fait de formidables avancées, ça y a aucun doute là-dessus, mais qui ont également leurs limites. On ne peut pas tout expliquer à travers la médecine, on ne peut pas voir le monde uniquement à travers le prisme de la médecine.
Alors, médecine, et on va dire avec cet ouvrage surtout, docteur Antoine Piau, prévention, hein, mais sans dramatiser,
oui,
sans dire voilà quels sont tous les interdits de la vie. Finalement, on va s'enfermer au bord de la mer et puis manger des légumes. C'est pas vraiment ça. Comment on trouve le ton justement pour faire passer l'information sans passer non plus pour un moralisateur?
Alors, je trouve que quand même les messages de prévention se sont améliorés dernièrement. C'est-à-dire, on a de moins en moins des gourous de la moralisation, de l'ascétisme, etc. Et clairement, on peut parfaitement avoir une hygiène de vie absolument rigoureuse et se faire plaisir et être épicurien et faire des bonnes bouffes et boire du vin et des fois passer toute sa journée dans le lit à regarder une série.
Ça, on peut le dire même quand on est médecin.
Oui, mais c'est possible, c'est complètement possible. Et faut très bien vraiment distinguer notre mode de vie qui fait ce que l'on est et les excès. Et les excès, par définition, si c'est des excès, ça veut dire que c'est pas quotidien. Donc il y a pas de problème avec ça.
Il y a des choses qui changent
aussi.
C'est
le quotidien.
Il y a des choses qui changent aussi. Par exemple, vous êtes gériatre. C'est vrai qu'avant, quand on mettait, on va dire, des personnes âgées au régime, c'était jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on pense aussi à la qualité de vie de ces personnes d'un grand âge, manger, boire un petit verre de champagne, un carré de chocolat quand il y a une fête,
une tablette, oui.
avoir de bons moments, c'est aussi quelque chose d'important, quoi. Ça fait aussi partie de la santé.
Mais c'est capital. Ben c'est capital. Le moral, l'esprit battant, le fait d'avoir des projets, ça a été clairement démontré. C'est très fortement lié à l'espérance de vie et à l'espérance de vie sans incapacité, même quand on a des cancers. Donc bien sûr que l'état d'esprit influe sur la santé. Ça, c'est expliqué entre autres par les liens qu'il y a entre le cerveau et le système immunitaire. Donc ça, c'est une évidence. Je ne sais plus quelle était la question.
La question, c'était comment justement le moral interférait, qu'on n'était plus aussi rigoureux, par exemple, avec les régimes,
oui,
etc.
Non, je voulais rebondir sur le mot régime. Le mot régime est une aberration scientifique. C'est-à-dire que le mot régime signifie qu'il y a un début et qu'il y a une fin et potentiellement de la privation. C'est pas comme... La médecine n'a jamais dit ça. La médecine dit, si vous changez votre mode d'alimentation, c'est définitif. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas être malheureux. Ça ne peut pas être privatif. Donc, il faut trouver un mode d'alimentation plus sain, différent, mais qui vous convienne et qui ne vous rende pas malheureux. Donc, le régime n'est pas cautionné par la science ou par la médecine.
C'est
et encore moins chez les personnes âgées.
On entend beaucoup plus parler d'équilibre alimentaire.
Exactement.
Que de régime alimentaire. Alors, on disait, début de journée, docteur Piau, on se met sur nos pieds. Hein, ça commence comme ça, il paraît.
C'est mieux.
On se lève. Et justement, Steve du Congo-Brazzaville demande... Pourquoi les os craquent quand on marche?
Pourquoi les os craquent quand on marche?
Ah oui, c'est une question.
C'est une bonne question. Et figurez-vous que la réponse n'est pas évidente, parce qu'il y a plein d'hypothèses. Hein. Il y a l'hypothèse des microbules qui sont dans les articulations. Donc, pour faire simple, deux os, ils sont reliés par une articulation. Et c'est quoi? C'est un peu de cartilage qui va comme une couche un peu élastique sur l'os, qui va permettre que ça coulisse un peu de liquide synovial pour que ça ne couine pas trop. Et de temps en temps, effectivement, on a des craquements au réveil, c'est mon cas. Il y en a qui disent que c'est des petites bulles d'air qui se déplacent. A priori, c'est pas forcément mauvais signe. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'arthrose, où là, le cartilage est abîmé. Et là, pour le coup, on a des raideurs très importantes au réveil et qui sont, on a des douleurs qui persistent jusqu'à ce que le corps soit parfaitement échauffé. Donc là, pour le coup, les douleurs matinales qui persistent, c'est plus inquiétant.
S'étirer, ça sert à quoi?
C'est quoi, pardon?
C'est tiré.
C'est tiré, absolument rien.
Absolument. Rien?
Non, je plaisante. Non. Effectivement, les muscles, quand on les utilise, quand on les surutilise, va y avoir des courbatures, des contractures. Et il est bien de redonner un peu d'amplitude à ces muscles pour qu'ils soient plus efficaces, qu'ils soient pas douloureux. De la même manière, mobiliser ces articulations un peu dans leur amplitude maximale, ça permet d'éviter les rétractions tendineuses. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'aime pas ça moi, mais c'est plutôt une bonne chose.
Petite gymnastique du réveil, levée, ouais. Salle de bain. Tout à l'heure, on va en parler. On ira bien sûr dans la cuisine. On passera à table. Mais d'abord, ce rythme particulier au cours d'une journée, on appelle ça l'horloge interne. Et on en parle tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
Et en cas de dérèglement, eh bien tout ça peut avoir un impact sur la santé. Étude des rythmes biologiques, on appelle ça la chronobiologie. Pour en parler avec nous, docteur Sylvie Royan-Parola, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée. Docteur Royan-Parola, peut-être quelques mots de plus pour compléter cette définition de la chronobiologie.
C'est effectivement toute la dimension du temps dans l'organisation de notre organisme. On a, en fait, on pense beaucoup à la position des organes. Il faut imaginer que chaque fonction va avoir un temps optimal pour s'exprimer. Et donc, on va avoir faim à certains moments, on va avoir sommeil à certains moments, on va avoir une force physique qui va être la plus forte plutôt dans l'après-midi, on va avoir des performances intellectuelles qui vont être plus fortes en fin de matinée. Enfin bref, il y a une espèce de cartographie comme ça, temporelle, de notre organisme et qui est régulée par des horloges biologiques. C'est ça, vraiment, tout ce qui fait la base de la chronobiologie.
Alors, qui dit régulation dit aussi dérèglement possible de cette horloge interne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement pour l'organisme? Ça peut avoir quelles répercussions?
En fait, ça a beaucoup de répercussions qui sont pas directement palpables. Alors, il y a les répercussions immédiates qui sont la fatigue, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment un rythme très irrégulier et qui, en semaine notamment, va se lever très tôt et puis pendant 2 jours, voire 3 jours, à l'occasion du week-end et d'un jour de récupération, on va se lever beaucoup plus tard avec 4-5 heures de décalage par rapport à l'heure habituelle de la période de travail. Eh bien, on peut, c'est l'équivalent d'un, on a parlé d'ailleurs de jet lag social. Mm-hmm. Eh bien, cette rupture de rythme va faire que, contrairement à ce qu'on pense, ça permet pas franchement de récupérer, et notamment le lundi, on peut être beaucoup plus fatigué uniquement parce que on a fait cette variation d'une manière importante. Ensuite, il y a des choses qui sont beaucoup plus pernicieuses, qui vont mettre du temps et qui là vont s'exprimer au travers de troubles plutôt cardiovasculaires, parce que ça met à mal en fait toute la régulation cardiovasculaire, de ne plus avoir son rythme bien rodé et bien ancré avec un repos plutôt la nuit et une activité le jour. Et vous avez aussi les défenses immunitaires qui vont mal s'adapter, parce qu'effectivement il y a des processus qui se font la nuit et qui se font pas le jour. Et il y a aussi toute la régulation métabolique, notamment chez les diabétiques. On sait que des gens qui ont des rythmes très irréguliers vont être dans des situations vraiment compliquées au niveau de la régulation du sucre et faire des hypos ou des hyperglycémies. Et enfin, il y a tout ce qui concerne le domaine des troubles de l'humeur, où là, on commence maintenant à faire très très attention, notamment chez les gens qui ont des troubles bipolaires, s'ancrer en quelque sorte dans une vie qui est beaucoup plus rythmée, beaucoup plus cadencée que les irrégularités qui spontanément sont mises en avant par le mode de vie des bipolaires. Donc on les aide comme ça, et ça, c'est de la psychoéducation et ça marche plutôt bien.
Il y a des routines qui sont donc bonnes pour la santé. La chronobiologie, il y a un autre mot, même préfixe, même début, chronopharmacie, c'est quoi?
Alors, la chronopharmacologie, plutôt, c'est en fait le fait que certains médicaments vont avoir une action qui va être optimale à certains moments dans la journée, et si on les prend dans un autre moment, ils vont plutôt avoir les effets secondaires. Mmh. Et notamment, il y avait une très belle étude qui est maintenant ancienne et qui avait été montrée chez l'animal. En donnant un anticancéreux le matin, eh bien, il y avait en fait prédominance d'effets nocifs. Et quand on le donnait le soir, il y avait prédominance des effets positifs. Et là, ça se soldait quand même par la survie ou la mort des souris. Donc c'est quand même très très important.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, docteur Sylvie Royan-Parola, cette dimension du temps, de la temporalité, il faut l'intégrer dans le soin, par exemple quand on programme une opération, ou même quand on voit des personnes qui sont, on va dire, en mauvaise santé, dans l'interrogatoire, poser des questions sur les rythmes de vie, poser des questions sur comment se déroule, comment ça s'organise pour eux.
Alors, tout à fait. En fait, ce qui est le plus avancé, mais pourtant pas mis en pratique, c'est effectivement la chronopharmacologie. Notamment en oncologie, il y a vraiment des protocoles qui prennent la mesure de cette dimension du temps dans la prescription. En revanche, on est très très loin d'une organisation des interventions ou de tout soin en fonction du type ou du chronotype de la personne. Ça, c'est pas encore du tout d'actualité.
Alors, plus légèrement, je m'adresse juste avant de vous redonner la parole à notre médecin en studio, docteur Antoine Pio. Parce que vous êtes léger, c'est pas un gros mot. Présente. Est-ce qu'il y a des actions qu'il vaut mieux enchaîner dans un certain ordre? Là, on est sur, quand on parle de traitement anticancéreux, on est sur un autre ordre d'idée. Mais quand même, si certains vous disent, se doucher juste avant de dormir, c'est mauvais pour la santé, boire de l'eau avant un repas, c'est mauvais pour la santé. C'est quoi cet ordonnancement qu'on nous impose, qu'on nous conseille? Est-ce que ça a un sens d'un point de vue médical?
Alors déjà, on est bien incapable de démontrer ce genre de choses scientifiquement, tout bêtement. Je crois que l'important, c'est ce qui vient d'être dit à l'instant sur les rythmes de sommeil. D'ailleurs, je me rends compte, il faudra que je revoie ma chronobiologie. Je croyais fort au rattrapage du week-end.
Non, ça marche pas. On avait plusieurs émissions qui le prouvent. La grasse matinée, ça marche pas.
Et surtout, c'est important de se défaire d'idées très simples, trop simples, comme le sommeil, c'est pas un coma. Le sommeil, c'est pas une anesthésie générale. Le sommeil, donc, par exemple, donner un hypnotique, un médicament qui va aider à dormir, ça n'est pas synonyme de sommeil. Donc évitez de faire des cas simplistes. Et effectivement, quand vous dites il vaut mieux boire un verre d'eau à 17h plutôt qu'à 18h, la bonne question, c'est très bien, mais comment vous arrivez à démontrer ce genre de choses? Parce qu'en science, on a beaucoup de mal à démontrer ce genre de choses. Donc c'est bien, quand il y a des débats un peu farfelus comme ça, de revenir à la base justement, et c'était un peu l'idée du livre d'ailleurs, de revenir sur des principes très simples.
Question légère aussi avec vous, docteur Sylvie Royan-Parola, pour conclure. On disait la grasse matinée, c'est pas forcément indiqué. En revanche, la sieste, on y revient, les bienfaits de la sieste dans certaines sociétés, c'est quelque chose qui est régulier, qui est conseillé, qui est tout à fait normal. Pourquoi est-ce qu'une petite sieste, c'est mieux qu'une grosse grasse matinée?
Parce qu'en fait, on reste dans le rythme quand on fait une sieste. Physiologiquement, on a un rythme qui est ancré dans nos gènes et encore dans nos habitudes, même si on les laisse s'exprimer. Et il y a vraiment une rythmicité circadienne de la sieste, c'est-à-dire qu'à peu près 6 heures après l'heure du lever, on a vraiment un creux, un creux de vigilance, et il vaut mieux respecter ou augmenter ce temps de sieste quand on a été en privation plutôt que de faire une longue grasse matinée qui va en fait modifier tout le rythme et ne pas permettre de bien récupérer. La sieste le fera.
En toile de fond, tout ça, c'est vraiment de s'écouter.
S'écouter, pas toujours. Oui. Au niveau du sommeil, il y a parfois des habitudes que l'on pense bonnes, et c'est bien tout le problème de l'insomniaque, où il met en place des stratégies, où il pense qu'il va céder, et en fait, il ne cède pas du tout, il perpétue le problème. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait un peu plus d'éducation et de connaissances sur le sommeil de la part du grand public et des gens en général, parce que y a des choses qu'on fait à contre-temps et qu'on ne sait pas qu'on le fait à contre-temps.
Merci beaucoup pour votre éclairage, docteur Sylvie Royan-Parola. Je rappelle que vous êtes psychiatre, présidente du réseau Morphée. Pour continuer justement sur ce sujet, docteur Antoine Piau, on a une question de Djibril sur la page Facebook de l'émission. Il est à Conakry en Guinée. Il demande, on l'a évoqué mais juste rapidement, à quoi est due la fatigue? Pourquoi certaines personnes, ça c'est plus intéressant, pourquoi certaines personnes se plaignent-elles tout le temps d'être fatiguées et le sont-elles vraiment?
Alors, bonjour Djibril. C'est une question difficile. Donc, on n'a effectivement pas tous les mêmes rythmes de sommeil. On n'a pas besoin tous du même temps de sommeil. Et ça évolue avec l'âge, ça il faut bien le savoir. Par exemple, chez les personnes âgées, on a souvent des gens qui se plaignent de manque de sommeil, mais qui se couchent à 8 heures du soir et qui espèrent se lever à 8 heures du matin, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est très difficile de bien connaître son temps de sommeil, de bien se connaître finalement. Alors, pourquoi des gens sont-ils toujours fatigués? C'est rigolo parce que le fait de se sentir fatigué au-delà de 75 ans et de l'exprimer, c'est pas un très bon signe. On appelle ça un des critères de fragilité. C'est un des critères qui laisse penser qu'une personne risque de devenir dépendante. Mais on a tendance à dire oui, mais il y a des gens, ils sont fatigués depuis leur naissance.
Et quand donc on est plus jeune,
cet indicateur n'est pas toujours pertinent.
Mais c'est une plainte en tout cas.
C'est une plainte. La question de Djibril, en fait, c'est comment on différencie la plainte d'un problème médical réel. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas à la différencier. C'est comme la douleur. La douleur,
c'est une expression importante.
C'est une expression importante. Si je me plains d'avoir mal, il n'y a pas de fausse douleur, de vraie douleur. J'ai une plainte de douleur. Et de la même manière, quelqu'un qui se plaint d'être fatigué, c'est bien de creuser un peu pour savoir ce qui se passe. Les raisons, elles peuvent être multiples. Elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être somatiques. Il peut y avoir des vraies maladies, des vraies. Là encore, ça laisse penser que les autres sont des fausses. Donc, la plainte, de manière générale, c'est quelque chose qui a son importance, qu'il faut éviter de trop stigmatiser.
Alors, docteur Antoine Piau, se lever, marcher, activer la circulation sanguine, ça alimente le cœur, les organes vitaux. On va en parler, ces organes essentiels à une mécanique complexe. Et vous proposez justement une série de coups de projecteur sur nos poumons, sur le foie ou sur les reins. Et sur notre cœur, on l'entend qui bat, avec toujours le double ton documenté et léger, y compris sur un sujet aussi vital que le massage.
Ah oui.
Massage cardiaque, message de prévention. Alors, on peut s'informer en gardant le sourire, c'est la preuve depuis le début de cette émission, parce qu'on entend pas mal rigoler, y compris sur ce fameux massage cardiaque, un décalage en fait entre les images, entre les on dit, les préjugés, notamment les images diffusées auprès du public au cinéma et la réalité. Alors, on va faire de la prévention à travers cet ouvrage. Ça sert aussi donc à battre en brèche un certain nombre d'idées reçues. Justement, ces fausses idées sur notre santé, on les trouve où?
Les fausses idées sur notre santé, mais on est inondé au quotidien de fausses idées sur notre santé, notamment par la pub. C'est vrai, on parle beaucoup de fake news en ce moment, c'est vrai que c'est très à la mode, mais les fake news, ça existait avant Trump, ça existait avant le Covid, je veux dire, ça fait des décennies qu'on baigne dans les fake news, ça s'appelle la pub. Et la pub, moi j'ai rien contre, mais dans le domaine de la santé et du bien-être, c'est quand même très délétère. Je veux dire, du matin au soir, je vais croiser une pub qui va me dire « musclez vos cheveux ». Ah bon, musclez mes cheveux, mes cheveux ont des muscles. Après, je vais voir une crème anti-burnout. Je veux dire, le marketing, c'est génial, on peut dire toutes les conneries de la planète sans avoir aucun problème. Mais encore une fois, je critique pas les marketeurs, je critique pas la publicité, quoique, mais dans le domaine de la santé, c'est quand même problématique, parce que des fois, on a l'impression que notre éducation à la santé est faite à travers ces pubs, ou même les shampoings revitalisants, les crèmes anti-rides, c'est fou.
Et les modes, si en ce moment on passe à côté de l'expression détox, c'est qu'on est aveugle.
Ouais, détox, mais c'est magique le détox, c'est-à-dire le détox n'a aucun fondement scientifique. Un médecin, il sait pas ce que c'est le détox, ou alors s'il le sait, c'est que c'est un escroc. C'est-à-dire, on absorbe une substance pour enlever les toxines de notre corps.
Ça à part quand on lutte contre un poison. C'est la seule solution.
Et encore, éventuellement un antidote, mais par exemple, le charbon actif, etc., dans les intoxicants, ça se fait plus, quoi. C'était des choses qui se faisaient il y a 30 ans. Mais on attend, par exemple, on fait une tentative de suicide avec des anxiolytiques, on attend que notre corps, notre foie élimine le médicament. On ne sait pas l'éliminer plus vite, on ne sait pas le faire. Donc, il existe des antidotes, c'est pas très fréquent, mais ça n'est pas une détox, un antidote. C'est un médicament qui va antagoniser notre médicament, et après, il faudra éliminer le médicament et l'antidote. Donc, la détox n'existe pas.
Alors, on va revenir au cœur, ce massage cardiaque. Petite révision avec vous. C'est ce que l'on va faire pendant les prochaines minutes, selon vos conseils. Révision en musique, car vous expliquez que pour un massage cardiaque, eh bien, il faut trouver la bonne cadence. There's a place in your heart, and I know that it is love. And the place was brighter than tomorrow. Alors là, non, hein, c'est non, pas le bon tempo du tout.
C'est pas ça.
Du coup, docteur Antoine Piau, c'est vous qui faites la programmation de l'émission. Car si Michael Jackson, là, s'est recalé parce que pour le massage cardiaque, pour le coup, c'est trop mou, trop langoureux. En revanche, recommandé par le docteur Piau, un trio de frères chevelus, hein, les Bee Gees, 1977, Staying Alive. Donc c'était notre gros plan sur le cœur avec vous, docteur Antoine Piau. On continue de feuilleter votre livre 24 heures dans la vie du corps humain. Alors là, beaucoup plus sérieusement, hein, face à une personne qui présente les signes d'un arrêt cardiaque après avoir appelé les services d'urgence, le 15, vous expliquez pourquoi ce fameux rythme de Staying Alive est particulièrement indiqué pour le massage. Expliquez-nous, parce que là, il faut compter. Et je ne sais pas si vous voulez, on peut remettre la musique en toile de fond pour comprendre, mais pourquoi ?
En gros, voilà, il faut masser vite. Mmh. C'est pas plus compliqué que ça. Et le choix des chansons n'était pas anodin. Parce que le premier, c'était Michael Jackson, Heal the World, dont soigne la planète très bien. Mais là, faut ressusciter la personne. Staying Alive, c'est reste en vie. Donc, faut mimer le battement du cœur. Et bien évidemment, quand on va appuyer sur le sternum pour faire pomper le cœur, ça va être moins efficace qu'un vrai battement de cœur. Mmh. Et le vrai battement du cœur, il est plutôt à 70 par minute. Donc, c'est plus rapide qu'un battement par seconde. Mmh. Donc là, faut aller encore plus vite. Mmh. On est presque à 2 battements par seconde, un petit peu moins.
C'est-à-dire que c'est très fatigant quand on procède à ce geste.
Et c'est très fatigant. Mmh. Et quand, en réalité, quand on fait un massage cardiaque, c'est relativement brutal, entre guillemets. Donc, on n'effleure pas le sternum. C'est pas un massage langoureux. Il arrive qu'on casse des côtes, pour vous donner une idée de la puissance. Mmh. Et c'est très, très rapide et c'est exténuant. Et d'ailleurs, quand on est seul à masser, c'est souvent problématique parce qu'au-delà de quelques minutes, 5 à 10 minutes, eh bien, le massage il est de moins en moins efficace. Et c'est pour ça que quand on fait un massage cardiaque, c'est bien d'avoir d'autres gens autour de nous, de pouvoir se relayer le temps que les secours arrivent. Et ce massage cardiaque, je voulais faire vraiment un focus dessus parce que finalement, en médecine, on sauve pas tant de vies que ça. On se présente comme thème. La réalité, elle est moins brillante. On sauve pas tant de gens que ça. Par contre, si vous avez une personne qui fait un arrêt cardiaque devant vous et que vous le massez efficacement jusqu'à l'arrivée des secours, vous pouvez lui sauver la vie. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez avoir une action plus importante, vous, le quidam de passage, qu'un médecin lambda pendant 6 mois de travail. Donc c'est vraiment à la portée de tous. Et les pays où les gens sont vraiment tous formés au massage cardiaque et où ils sont bien informés, mais finalement le taux de décès après arrêt cardiaque est bien inférieur qu'en France. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un domaine où on peut avoir un impact majeur et où tout le monde peut être efficace, et même les ados, même les grands enfants peuvent l'apprendre.
Et c'est vrai qu'on dit que ce sont les premières minutes qui comptent vraiment. Alors, sur ces organes vitaux, cœur, rein, poumon, on décrit en fait dans ce livre, docteur Antoine Piau, tout ce qui se passe sans qu'on y pense vraiment, notamment le système respiratoire, bien sûr, et puis aussi le système nerveux autonome. Alors là, expliquez-nous.
Alors le système nerveux, c'est vrai qu'on sépare traditionnellement le système nerveux en deux grands systèmes nerveux. Le premier système nerveux, le système nerveux central dont on a conscience, c'est-à-dire j'ai conscience que je suis assis sur une chaise, j'ai conscience de ce que je sens sous la paume de ma main, etc. Et le système nerveux inconscient qui fait que notre corps, il fonctionne tout seul sans qu'on ait à s'en préoccuper. C'est-à-dire, quand je me lève de mon lit, j'ai pas besoin de me dire, tiens, mais pense à respirer, sinon tu vas faire une syncope, tiens, le cœur serait sympa que tu continues à battre, là, ça serait bien que je sue un peu parce que j'ai trop chaud, et puis en même temps, etc.
Donc, impossible.
Tout notre corps fonctionne de manière automatique sans qu'on ait à y réfléchir, et on a assez peu d'impact sur ce système nerveux autonome, mais on en a malgré tout. Et c'est notamment pour ça que les gens font de la sophrologie, font de la relaxation. On peut, en se détendant, diminuer la fréquence des battements de notre cœur. On peut arriver à maîtriser un instinct panique inconscient. Donc en réalité, on peut agir sur ce système nerveux autonome, mais c'est beaucoup plus difficile et ça s'apprend. Alors que le système nerveux central classique, on n'a pas besoin de l'apprendre. C'est-à-dire, je sais comment fermer ma main et ouvrir ma main.
Agir sur le stress donc aussi de cette façon.
Tout à fait, agir sur le stress.
7h30, hein, salle de bain, on revient à l'horaire de la journée, on est toujours tôt. Vous nous faites découvrir la peau, des glandes qui sécrètent les liquides, les odeurs, les graisses, j'en passe. Des produits là, pas forcément utiles ni utiles, on en a parlé tout à l'heure, comme ces fameux shampoings qui vous révèlent les muscles capillaires. Et puis des mots aussi, les fanères. On passe beaucoup de temps, de soins, sans savoir ce que c'est ces fanères.
Alors les fanères, c'est ce qu'on a en commun avec beaucoup d'animaux, c'est les cheveux, c'est les ongles qui sont les sabots chez les bovins et les ovins par exemple. Et finalement, c'est quoi ? C'est du tissu mort en grande partie. Et pour le coup, c'est un champ immense de marketing, c'est-à-dire qu'on va passer une énergie folle à revigorer nos cheveux qui sont plutôt mort quand même, et nos ongles. Donc, en fait, les soins aux cheveux et aux ongles, ça se fait bien avant, c'est-à-dire ça se fait à la racine. Et en gros, si on est en bonne santé, on aura des beaux ongles, des beaux cheveux, et si on a une hygiène de vie catastrophique, eh ben on pourra mettre toute la peinture qu'on veut dessus, ça changera pas grand-chose. Et effectivement, dans le livre aussi, on fait la différence entre ce qui est dicté par notre santé, c'est-à-dire le fait de ne pas laisser rouiller les morpions et les poux dans nos cheveux et d'éviter que les parasites pullulent, et ce qui est dicté par la société, c'est-à-dire le fait de s'astiquer de 10 détergents par jour, c'est pas forcément bon pour notre santé. Ça, c'est dicté par la société. Donc, très bien, soit. C'est vrai que c'est plutôt agréable pour les autres. Mais il faut bien faire la différence entre les deux. Et de la même manière, la propreté de manière générale, il y a la propreté santé et la propreté exigée par les autres. Et c'est deux choses différentes. Et si on va trop loin, si on va dans l'excès, on peut mettre en péril notre santé. Parce qu'il y a des produits, que ça soit ménagers ou des produits cosmétiques, qui sont potentiellement cancérigènes, potentiellement perturbateurs endocriniens. Donc c'est pas anodin non plus. Aucun produit chimique n'est anodin. Ou naturel d'ailleurs. Parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé.
Alors on va voir là aussi beaucoup de choses à dire sur ce moment où on passe à table. Mastication, flore buccale. Vous dites, tout ce qui est autour du système digestif, sujet tabou. Pourquoi ?
De moins en moins.
De moins en moins. Avec tous les livres qui sont publiés sur le microbiote, ça marche.
Ouais, ça va mieux. Mais c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on parle le transit, c'est généralement pas le premier sujet de discussion. Pourtant, c'est une préoccupation majeure chez les gens.
Sauf chez les jeunes parents.
Sauf chez les jeunes parents, effectivement. Mais oui, c'est comme ça. Il y a des tabous qui sont en train d'être levés petit à petit. Donc le transit n'est toujours pas le premier sujet de discussion, mais néanmoins, il y a beaucoup de livres qui se vendent sur ce thème et c'est intéressant pour le coup parce que en fait il y a une sorte de hiérarchie des organes, c'est-à-dire il y a des organes qu'on a complètement négligés pendant des années. Le cœur, il a la côte, le cerveau, il a la côte, mais il y a des organes comme le tube digestif, tout le monde s'en foutait quoi. Et il y avait même nous on appelait ça un kit chirurgical, c'est-à-dire moi je vois des personnes de 85 ans de moyenne d'âge dans ma pratique. Et c'est vrai qu'on dit qu'ils ont le kit chirurgical, on leur a enlevé généralement l'utérus, les ovaires, la thyroïde,
la
vésicule biliaire, l'appendice, toutes ces petites choses qui ne servaient à rien, soi-disant. Et puis, petit à petit, on se rend compte, ah non, quand même, c'était quand même bien utile. Et c'est vrai que les chirurgiens du 21e siècle sont quand même beaucoup plus raisonnables. Et on se rend compte que, tous les organes de notre corps ont un rôle à jouer et c'est quand même un peu plus intéressant. On a apporté un peu de finesse dans l'anatomie.
Avec, vous parlez notamment vers 13h, là, le passage redouté aux toilettes. On a compris pourquoi c'était redouté, c'est toujours ces espèces de tabous. Docteur Piau, justement, lieu d'hygiène en ce moment, on entend, on le répète, justement, ces conseils pour prendre soin de nous, de notre hygiène. Dans votre livre, page 132, les règles à suivre, elles sont très simples. Tous les jours à la fin de cette émission, je dis aux auditeurs, lavez-vous bien les mains. Alors justement, petite leçon, page 132, 60 secondes pour des mains impeccables. Et c'est Ophélie Lassène qui s'y colle.
Comment bien se laver les mains ? Mouillez les mains abondamment. Appliquez suffisamment de savon pour recouvrir toute la surface de la main. Frictionnez d'abord paume contre paume par mouvement de rotation. Puis le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite et vice versa. Ensuite, les espaces entre les doigts, paume contre paume, doigts entrelacés en exerçant un mouvement d'avant en arrière. Les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral. Le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite et vice-versa. La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche et vice-versa. Rincez les mains sous l'eau. Séchez soigneusement les mains avec une serviette à usage unique. Fermez le robinet à l'aide de la serviette.
Savonner, rincer, sécher les mains. Moi, je me suis un petit peu emmêlé les doigts en suivant les conseils. Mais c'est vrai qu'une question aussi basique et essentielle, on s'en est rendu compte au début de cette épidémie de coronavirus, se laver bien les mains. Tout le monde croit le savoir, mais c'est pas évident.
Non, et puis pour le coup, c'est important. Je veux dire, on parlait de la propreté sociétale et la propreté exigée par la santé, ça c'en est une.
C'est vrai qu'on oublie l'essentiel, on va passer du temps à se passer des crèmes anti-rides qui sont pas forcément essentielles, on va dire. Ouais. Par contre, un bon savon...
Et dans les blocs opératoires, on se lave les mains au savon doux. Et dans les services, y compris Covid, on utilise du gel hydroalcoolique quand on n'a pas le choix, mais de temps en temps, il faut aller se laver les mains à l'eau et au savon doux, au savon neutre. Donc ça c'est vraiment capital. Et il faut bien savoir que si on a eu un tel bond d'espérance de vie dans les pays développés, c'est grâce à l'hygiène des mains, notamment. Et par exemple, c'est beaucoup plus important de bien se laver les mains, d'avoir un système d'épuration et de ne pas faire caca dans son potager, que d'avoir des antibiotiques. L'assainissement, c'est la base. Et vaut mieux avoir d'abord un bon système d'assainissement. Les antibiotiques, c'est à la marge. Donc effectivement, vaut mieux ne pas être malade, ne pas avoir de bactéries, qu'être amené à les traiter pour faire un peu mieux que ce que fait notre système immunitaire.
C'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on peut dire aux dirigeants des pays quand ils investissent dans des hôpitaux de grand luxe.
Ah oui.
Le plus important, c'est l'adduction d'eau potable.
Payez-vous des égouts avant les hôpitaux. Oui.
Docteur Antoine Piau, on parle de la journée de travail. Et ces postures, beaucoup l'ont testé pendant le confinement avec le télétravail. Quand on change justement de posture au travail, on peut avoir mal. Mal tout simplement au dos, mal aux jambes. Pourquoi ?
Alors, le corps n'est pas fait pour être allongé, le corps n'est pas fait pour être assis. Le corps, il est fait pour être debout et pour marcher. Clairement, ça, c'est une évidence. Donc, on pourrait disserter pendant des heures avec des ergonomes, des posturologues sur la bonne position sur une chaise, mais ça ne résoudra pas le problème essentiel qui est qu'il ne faut pas rester trop longtemps sur une chaise. Et vous savez, les Anglais qui sont souvent un peu plus pragmatiques que nous, ils disent... Plutôt que de dire, ouais, faites une demi-heure d'activité physique par jour, ils disent, commencez par lever votre cul de votre chaise. C'est un peu vulgaire, mais c'est ça. Et par exemple, ça a été démontré que le fait de régulièrement se lever de sa chaise et d'aller faire le tour de la pièce pendant la journée diminuait le risque d'AVC.
Tout simplement.
Donc, notre corps n'est pas fait pour être assis. Et de plus en plus, on réfléchit à des postes de travail, vous savez, où les gens sont debout. Après, ils peuvent se rasseoir, se remettre debout. Il y en a même qui mettent des tapis de marche très lents sous les postes de travail. Bon, je sais pas s'il faut en arriver jusque-là, mais le principe est pas idiot. Voilà, on a tendance quand même à se lancer dans des choses extrêmement complexes sur le positionnement du bassin, sur le siège. Je dis pas que c'est pas important, mais le plus important, c'est pas ça. C'est qu'on ne devrait pas rester assis 8 heures d'affilée.
Le rappel des bases, docteur Antoine Piau, justement sur cette sédentarité, quand on peut aussi, c'est faire de l'activité physique, un petit détour par la salle de sport, avec une question très simple encore, de Wiz qui vit au Mali. Il demande, quand je cours une vingtaine de minutes, j'ai mal sur le côté, au bas du ventre, a priori un point de côté. Qu'est-ce que c'est un point de côté ?
Question piège.
Mais tout le monde a eu un point de côté quand on était en cours de gym, devait faire 10 fois le tour du stade, les joies de l'endurance. Qu'est-ce que c'est un point de côté ?
J'ai lu plusieurs explications qui ne m'ont pas toutes convaincu. Je peux donner ma landocha, j'ai le droit à un joker.
Vous nous enverrez un mail, on le dira aux auditeurs. En tout cas, on répondra à cet auditeur, parce qu'il ne faut pas le laisser dans l'inconnu.
Ce qu'il faut répondre déjà, c'est que avoir un point de côté, ce n'est pas très grave. Ne pas faire d'activité physique, c'est très grave. Et on dit, ceux qui n'ont pas le temps de faire l'activité physique aujourd'hui prendront le temps d'être malade demain. Mm-hmm. Donc lui, il a parfaitement raison de faire 20 minutes d'activité. Et s'il fait qu'un quart d'heure, c'est pas grave. S'il fait 10 minutes, c'est pas grave. C'est toujours mieux que rien. Et il faut toujours faire quelque chose qui est à sa portée et surtout qu'on va faire sur le long terme. Aller faire 3 marathons dans le mois et ne plus faire de sport pendant 5 ans, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux aller courir 10 minutes 3 fois dans la semaine ou 5 fois dans la semaine. Donc faites ce qui est à votre portée, surtout faites-le régulièrement et faites-le longtemps. Et une autre petite précision, c'est vrai qu'on fait toujours le même sport, on a tendance à avoir des petites douleurs, des petites contractures, des inconforts, et c'est pour ça que les médecins du sport souvent conseillent la rotation des sports, c'est-à-dire de faire plusieurs activités différentes pour solliciter des groupes musculaires différents et pour éviter les blessures. Et c'est vrai que la monoactivité favorise quand même les blessures.
Alors dans votre livre, on parle du corps, on parle aussi de l'esprit. Tout à l'heure d'ailleurs au bureau, vous dressez une série de portraits, vous brossez une série de portraits des personnalités parfois assez bizarres, l'hypocondriaque, le frileux. Et puis autre chose dans justement cette santé de l'esprit, quand on rentre à la maison, bah vous dites 20 heures parce que c'est un petit peu un schéma d'adulte parisien. Sous d'autres latitudes, c'est beaucoup plus...
Je suis pas parisien.
Bah oui, peut-être toulousain, non, parce qu'en tout cas, il y a un accent du sud quand vous dites côte.
Côte.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Sous d'autres latitudes, oui. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus tôt. En tout cas, quand on rentre à la maison, pour beaucoup d'entre nous, on va faire face à ce qui s'appelle la charge mentale. Ça agit sur notre psychologie. Et là encore, être conscient de ce qui se passe.
Ben, c'est vrai qu'on a tendance à être dépassé, quoi. Je veux dire, le matin, il faut s'occuper des enfants. Après, on va au travail. On rentre du travail, on pense qu'on va se reposer. Et puis, on doit gérer les problèmes familiaux des ados, des petits, ou des parents pour les aidants. Donc, c'est vrai qu'il est important de se ménager des temps de répit. Et les temps de répit, il ne faut pas attendre qu'ils arrivent à vous parce qu'ils viendront jamais à vous. C'est-à-dire, jamais quelqu'un viendra taper à votre porte en vous disant « Tiens, il est temps de te reposer, je m'occupe de tout. » Donc, ça, c'est un mythe. Donc, et surtout, ce qui est important, ce qui fait que les gens n'ont pas de temps de répit, c'est la culpabilité.
Et le repos, c'est pas uniquement dormir.
Ah, le repos, c'est pas uniquement dormir. Attention, je parle de répit. Hein, attention, répit. Hein. C'est prendre du temps pour soi. Ça peut être aller chez l'esthéticienne, ou aller faire du sport, ou aller au cinéma, ou aller voir des copains. Ça peut être tout et n'importe quoi. Du temps uniquement pour vous. Mm-hmm. Et finalement, ce qu'on a tendance à dire aux aidants, nous, c'est vous êtes bouffé par la culpabilité et vous y arrivez pas. Mais si vous craquez, il y aura plus personne pour s'occuper de tous ces gens-là. Mmh. Même les gens qui s'occupent de gens très malades, on leur dit attention, si vous craquez, et ça va arriver parce que les aidants, ils sont plus hospitalisés, ils ont plus de dépression, ils meurent plus tôt que les autres. Donc, être aidant, c'est quasiment une maladie. C'est excessif, mais c'est presque vrai. Mais finalement, vous serez plus là et les gens, ils seront plus aidés du tout. Donc, si vous prenez du temps pour vous-même, vous rendez service aussi aux gens que vous aidez. Donc ça, c'est capital. Et encore une fois, personne ne viendra le faire pour vous. Hein. C'est une décision que vous seul pouvez prendre.
Ce sera le mot de la fin, on ne sépare pas hein, le bien-être mental de cette santé physique. On passe par la prévention. Merci beaucoup hein, d'avoir répondu à toutes ces questions, docteur Antoine Piot. On rappelle le titre de ce livre, 24 heures dans la vie du corps humain. On l'a compris, c'est pédagogique et distrayant aux éditions du Rocher. Et avant d'aborder un tout autre sujet, surveillance de la fièvre de la vallée du Rift, pause en musique avec Burna Boy et ce titre d'Angoté.
D'un côté, si t'es pas mon Dieu.
It's Kelpie Vibes.
D'un côté, si t'es pas mon Dieu. I know they sleep on the money. Who happy, who happy? Where make I no go find money? I know they send anybody. Me at the house who calls on jack up. Make you house who my luck up. I know be your lord, I know be baller. Whoa, I'm a to baller fucker.
C'est une maladie virale émergente qui a été classée comme prioritaire par l'Organisation mondiale de la santé depuis maintenant 5 ans. Il s'agit de la fièvre de la vallée du Rift. On s'y intéresse tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Raphaël Métra, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheuse à l'INSERM au sein de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique à Paris. Docteur Métra, on va donc parler des travaux pour mieux comprendre les modes de transmission de cette zoonose, maladie infectieuse donc de l'animal transmise à l'humain. D'abord, la fièvre de la vallée du Rift, qui en est le porteur le vecteur et quels sont les symptômes ?
Donc, la fièvre de la vallée du Rift, c'est une maladie donc virale qui affecte essentiellement, je dirais, le bétail et l'homme dans plusieurs régions d'Afrique et de la péninsule arabique. Donc, en fait, il se transmet entre les animaux via piqûre de moustique. Mmh. Et il se transmet de l'animal à l'homme via deux voies. Donc l'homme peut se contaminer par contact direct avec des animaux infectés ou via piqûre de moustique, donc qui pique l'animal et ensuite qui pique l'homme.
Et cette connaissance, elle est justement améliorée par une étude que vous avez portée sur l'épidémie qui avait touché Mayotte entre 2018 et 2019. Docteur Metra, quelles ont été les conclusions de cette étude ?
Alors effectivement, on connaît ces modes de transmission, mais ce qu'on ne connaissait pas jusqu'à l'heure actuelle, c'était on n'avait pas réussi à les quantifier parce que pour ça, il nous fallait des données épidémiques simultanées récupérées chez l'animal et chez l'homme. Et à Mayotte, il y a eu une épidémie de fièvre de la vallée du Rift, donc en 2018-2019, et les systèmes de surveillance de santé animale et de santé humaine ont été capables de produire ces données. Donc nous, ce qu'on a réussi à faire en collaboration avec ces personnes, c'est de développer un modèle mathématique qui a permis de représenter cette épidémie à Mayotte entre les animaux et de l'animal à l'homme. Et donc il nous met en évidence deux résultats principaux. Le premier, c'est qu'on se rend compte que, en tout cas pendant cette épidémie à Mayotte, la moitié des cas humains était dû par contact direct avec les animaux et l'autre moitié, en gros, par piqûre de moustique.
Et est-ce que ces conclusions, docteur Metra, ça vous permet de changer les stratégies de riposte et de prévention ?
Alors, de les changer, non, mais en tout cas, les cibler un peu plus, parce que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de transmission par contact direct, mm-hmm. et on ne savait pas, en fait, quel rôle pouvait jouer la transmission par piqûre de moustique chez l'homme. Alors après, ça varie d'un écosystème à l'autre, d'une zone à l'autre, parce que ça varie aussi en fonction des populations de moustiques qui sont présentes dans les différents endroits où la maladie sévit. Mais on se rend compte que la transmission par piqûre de moustique est très importante. Et donc, en termes de message de prévention, pour prévenir la maladie chez l'homme, on va dire, jusqu'à présent, il fallait faire attention par contact direct, mais aussi faites attention aux piqûres de moustiques en période épidémique.
Cette fièvre de la vallée du Rift, elle se manifeste comment ? Chez les animaux et chez les humains ?
Alors, en période épidémique, chez les animaux, ça se manifeste par des vagues d'avortement et des mortalités élevées chez les jeunes. Donc c'est quand même très important pour la production animale et chez l'homme les formes varient, donc elles peuvent être asymptomatiques, elles peuvent être beaucoup plus importantes sous forme de syndrome dengue-like, donc avec des fièvres importantes, des céphalées, ou même aller jusqu'à des formes beaucoup plus graves, méningo-encéphalite ou fièvre hémorragique, voire la mort.
Est-ce que ça peut être particulièrement dangereux pour certaines populations par rapport à ce que vous venez de dire, je pense aux femmes enceintes et aux jeunes enfants ?
Nous n'avons pas étudié ces populations de façon particulière, donc là je serais pas franchement capable de répondre sur cette question. En revanche, les personnes qui sont en contact régulier avec des animaux doivent faire plus attention que la population générale, mais la population générale qui n'est pas en contact avec les animaux peut aussi se contaminer par piqûre de moustique.
On l'a bien compris. Merci beaucoup pour ces explications. Docteur Metra, vous êtes également professeur assistant honoraire à l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe. Passé tous à Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Didier Chérouse. Demain, journée nationale de lutte contre les toxicomanies. Coup de projecteur sur la dépendance aux opiacés. Émission qui sera présentée par Céline Guillaume. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.